Merci Yvon. Alors voilà, vous vous rendez compte, remplacer Pierre Perrault, alors c'est pas une tâche évidente. Mais je le salue ici, il m'a dit qu'il écouterait la prédication. J'espère qu'il ne sera pas trop déçu de moi. En pensant à ce sujet, c'est donc lundi soir que j'ai su que je devais parler ce matin. J'ai réfléchi un peu dans mon lit et je me réveillais avec un peu de peine quand je me suis dit que j'étais un grand privilégié. Car outre le fait d'avoir, comme chacun de nous ici, un toit, de la chaleur, de la nourriture et tant d'autres choses, je me suis dit que je connaissais aussi Dieu, mon Créateur. Dans sa grandeur, il a voulu s'adresser à nous, à moi, à vous, au travers de sa parole écrite, la Bible, et au travers de sa parole faite chair, Jésus-Christ. Mais je constatais aussi avoir tellement pris l'habitude de me savoir un enfant de Dieu, sauvé par grâce, que j'en ai un peu oublié l'incroyable. Et puis aujourd'hui encore, Dieu parle, mieux, il désire me parler par son esprit. Aussi à chacun d'entre vous, Sylvia qui m'écoute par Zoom, à Pierre, mon petit cousin, et puis il y a d'autres Pierre par ici aussi, à Dominique, à Elisabeth, à René, à Jean, à Marie, Stéphanie, à Mimi, à Laurence, à Samy, etc. Mais je ne vais pas citer toute l'Église qui est là présente. Chacun peut mettre son nom là-dedans. À moi donc d'écouter et de répondre pour en tirer un profit et des conséquences pour ma vie. Seigneur, je te prie pour cela, je te prie que pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu nous parles. Toi-même que tu parles, Seigneur, au travers de ta parole, au travers, Seigneur, de ces quelques faibles mots. Mais Seigneur, que toi, tu te manifestes et que tu donnes à chacun d'entre nous ce dont il a besoin pour sa marche journalière. Je t'en prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va utiliser toute la technique. Venons à notre texte, le psaume premier, un psaume que j'aime bien. J'ai eu l'occasion de parler sur ce psaume il y a des dizaines d'années. Alors, j'espère pas que vous trouverez que c'est une simple répétition. Je lis « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. » Un commentateur a écrit « Le psaume 1 est un honnête devoir d'écolier, rédigé par un pieux scribe du 4e ou du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il serait aisé de découvrir dans le psautier des pièces plus originales et plus vigoureuses. Celle-ci doit à d'autres traits le secret de son succès. Sa banalité lui a valu d'être placé tel un portique de stuc. Le stuc est un amalgame à base de plâtre qui le fait ressembler à du marbre. Il a donc été placé tel un portique de stuc à l'entrée d'un riche musée, comme préface à tout le psautier. Autrement dit, ce psaume, c'est du tape à l'œil, pas très consistant, placé à l'entrée d'un musée. Je vous laisse apprécier l'idée du musée qu'on trouve dans le psautier. Alors, je trouve que c'est une image pas très enthousiasmante. J'y ai pourtant trouvé deux, trois éléments qui m'ont à nouveau parler et que je désire partager avec vous ce matin. Une remarque préliminaire, je n'utilise pas le langage épicène, donc lorsqu'on parle de l'homme ou autre chose, ça inclut bien sûr messieurs et dames, c'est évident. C'est les dames, les messieurs qui sont concernés. Avant d'entrer dans la structure du texte, j'aimerais m'arrêter un instant sur ce premier mot, heureux. Heureux en hébreu, en pluriel, qu'on pourrait traduire par les bonheurs de, et aussi bienheureux, mais encore, il est béni l'homme ou la femme, etc. Tous des termes qui parlent d'une faveur particulière. À l'exemple de celle que nous connaissons bien au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, je me demanderais si Sylvain dirait deux mots à ce niveau-là ce matin, il a juste sauté l'appli 4 et 6, les béatitudes. Et c'est la même idée ici et là, en hébreu et en grec. Une question, bon, c'est une question à un franc, pas plus. Savez-vous où se trouve la première béatitude de la Bible ? C'est facile quand on a cherché soi-même. Voilà. Alors, je vous donne la réponse. Elle se trouve dans Deutéronome, au chapitre 33, le verset 29, que je lis. « Heureux es-tu, Israël, un peuple sauvé par l'Éternel. Il est le bouclier qui te vient en aide. Il est aussi l'épée qui fait ta puissance. » Première béatitude. Ce passage, je le trouve étonnant. Pourquoi ? C'est en fait les derniers mots de Moïse au peuple d'Israël. C'est l'ultime verset qu'ils nous ont rapporté juste avant qu'il soit repris par Dieu. On a donc là quelque chose d'important, c'est en quelque sorte son testament, cette dernière parole ultime qu'il donne au peuple. « Tu es un peuple heureux ». En prononçant cette parole, il marque sa confiance en Dieu, qui va continuer à diriger le peuple. Ça, c'était la première mention. Et maintenant, on en vient à la dernière mention dans la Bible. Où est-elle ? Dans l'Apocalypse, exactement, on va la lire aussi, Apocalypse 22, 14, qui est dans le dernier chapitre. Donc, on retrouve la même chose. Je lis... Pardon, excusez-moi, elle a disparu. Où es-tu ? Là ? Ah, non ? Voilà. « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. » On voit donc que cette notion de « heureux », cette notion de bénédiction, elle traverse toute la Bible finalement. De Deutéronome, Moïse qui est l'incarnation même de la loi, si on veut, de la révélation première et grande de Dieu, jusqu'à l'Apocalypse. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu sont des heureux, sont des bénis. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va un peu plus loin que le stuc dont on nous parlait tout à l'heure. Quand je vous disais que nous sommes des privilégiés, n'est-ce pas ? Passons à la suite. Heureux l'homme qui... D'un côté, il y a l'homme heureux, dans les trois premiers versets. Il est qualifié de juste un peu plus bas. En contraste, il y a le ou les méchants, dans les versets 4 à 6. Que dire de plus ? N'est-ce pas une simple constatation de la vie ? Il y a les bons d'un côté, il y a les méchants de l'autre. Nous nous arrêterons un peu plus loin sur cette question de juste et de méchant. Heureux l'homme. Est-ce que le texte vise ici une personne particulière ? David, l'auteur du psaume, ou bien Moïse, vous ou moi ? Un commentaire rabbinique dit ceci. On devrait écrire « homme » avec un H majuscule, car dans le texte hébreu, il est désigné par une particule, le homme, et pas simplement un homme. Homme avec une majuscule. Celui dont il est question ici n'est donc pas n'importe qui. Et ce psaume semble avoir été longtemps lié au psaume 2 qui suit, un psaume dit messianique. Et cet homme par excellence, n'est-ce pas Jésus, celui dont Pilate a dit « Voici l'homme ». C'est à lui seul que peuvent s'appliquer les paroles suivantes. Il ne marche pas, il ne s'arrête pas, il ne s'assied pas. Vous êtes étonné, vous voyez un passé ici alors que je vous le lis au présent. C'est que l'hébreu ne traite pas les verbes comme nous. Le contexte peut tout aussi bien être dit, en effet, l'homme qui ne marcha pas. On pourrait ajouter qu'il ne marcha jamais dans le conseil des méchants, qui ne s'arrêta pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'est pas assis sur le banc des moqueurs. Telle était la vie parfaite de Christ. Et on a une invitation à suivre cet exemple. Mais ce texte est aussi pour nous comme une mise en garde, car nous remarquons le décrescendo. Il ne marche pas, il ne s'arrête pas, il ne s'asseye pas. Donc on a quelque chose qui est en descente et on est invité à justement pas entrer là-dedans. Et là, je vous suggère un tout petit moment de réflexion personnelle. On ne va pas faire une introspection, mais peut-être se placer dans notre course avec Dieu. Est-ce qu'elle se poursuit normalement ou bien est-ce qu'elle est en train de s'essouffler un peu? Je vous laisse réfléchir une minute, simplement pour vous. Et je continue, et le texte met en face le méchant et le juste. Si nous avons parlé de l'homme heureux, qui est alors le méchant? Dans la notion biblique, le méchant n'est pas en premier lieu celui qui me fait peur, qui est désagréable, qui est peut-être violent. Je peux être très sympa, sous toutes les coutures, et pourtant être qualifié de méchant. Car dans la Bible, la notion de méchanceté ne se décline pas en termes de morale, avoir mauvais caractère, être colérique, etc., mais en termes juridiques. Qu'est-ce que le méchant? Le méchant est celui qui ne suit pas une règle ou qui la transgresse, que ce soit avec un être humain ou avec Dieu. Il ne suit pas une règle, mais la transgresse, que ce soit dans sa relation en être humain ou avec Dieu. En contraste, le juste se définit comme celui qui marche et qui demeure dans une juste relation, la relation droite avec Dieu ou avec son prochain. Cette relation droite, c'est ce que la Bible définit comme étant la foi. Une relation de confiance avec Dieu, basée sur sa fidélité envers nous, envers moi. Et ce à quoi nous sommes invités. Voilà le juste selon Dieu. Et c'est à la lumière du modèle qu'est le Seigneur Jésus que j'aimerais souligner trois expressions qui m'ont parlé dans les versets qui suivent. Tout d'abord, trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir, l'homme heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans ce même verset, le mot « loi » est répété deux fois, et je le relis, « qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Je vous entends, on oppose la loi et la grâce. Raymond, qu'est-ce que tu as compris? Mais le français « loi », qu'on traduit ainsi, traduit un terme hébreu. En fait, c'est la Torah dont il est question. Primitivement, les cinq livres de Moïse, puis par extension l'Ancien Testament d'une façon globale. Et Torah n'a absolument pas le sens négatif qu'on donne au mot français « loi ». Torah vient d'une racine qui signifie « lancer », montrer du doigt, indiquer une direction, mais aussi poser un fondement et par conséquent enseigner, instruire. Un autre sens dérivé est utilisé pour parler de la pluie d'automne et du printemps, la pluie de bénédiction, sans laquelle aucune récolte ne se fera. La Torah est donc là comme un signal, un point de repère, un poteau indicateur, donc la parole de Dieu prise dans son sens large, parole qui donne un sens à la vie, à notre vie, et qui permet la vie. Le mot « Torah » dans l'Ancien Testament ne fait donc pas référence à un système vieux jeu et légaliste, comme on le comprend souvent. C'est un mot plein de sève que l'on aurait mieux fait laisser tel quel, sans traduction. Aimer Dieu et sa parole. Le texte y dit « Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Le mot qui est utilisé là, en fait, on le trouve ailleurs, qui définit la relation d'un jeune homme et d'une jeune fille, l'attrait de l'un pour l'autre. En fait, c'est quelque chose qui est lié à la passion, qui est lié à l'amour, aimer passionnément. Il ne sait aimer passionnément la parole de Dieu, avoir cette relation amoureuse avec la parole de Dieu. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'être bibliolâtre, mais de rechercher dans la parole celui qui s'y révèle. Car alors cette parole, celle de Dieu, devient mienne, elle devient constitutive de ma vie. Et c'est cela qui est important. Parole de Dieu pour moi. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu en quelque sorte. Et puis il y a cette expression qui suit, qui m'a intrigué. Il médite sa loi jour et nuit. Méditer la parole de Dieu, la ruminer en quelque sorte, la mâcher, on voit un tout petit peu ce à quoi on fait allusion indirectement, nous on le connaît hein, dans les Alpes. Mais jour et nuit, est-ce que c'est possible? Et même si c'est possible, est-ce vraiment réaliste? On a le droit de dormir, n'est-ce pas? L'image du verset suivant peut nous aider à comprendre le sens. Il nous dit qu'il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Cette image de l'arbre qui reste vert toute l'année, elle est commune pour nous. Malgré les problèmes climatiques, nous voyons tous les jours ou presque de l'herbe verte, des arbres, des sapins, des plantes vertes. Mais dans l'Israël d'alors, comme aussi celui d'aujourd'hui et toute la région du reste, un arbre est un trésor sans pareil. C'était même si important que lorsque Josué et le peuple ont été amenés à conquérir le territoire d'Israël, les arbres fruitiers devaient être épargnés. Donc l'arbre, symbole de vie en quelque sorte, symbole de quelque chose que Dieu nous a donné. Et l'une des premières tâches des pionniers de l'État d'Israël a été de planter des arbres. Car l'arbre est plus qu'un symbole de vie, il est la vie et il permet la vie, l'humidité qui est là, les fruits qui viennent, etc. Et alors si nous imaginons l'arbre de notre psaume, il y a tout ce qu'on voit, qui sont les signes extérieurs de cette vie, le tronc, les branches, les feuilles, les fruits. Mais plus important encore, il y a ce qu'on ne voit pas. Ce sont les racines qui portent l'arbre. Les racines par lesquelles l'eau va pouvoir circuler, par lesquelles la sève va pouvoir venir, par lesquelles la vie va pouvoir pénétrer. Cette sève qui circule partout. Et cette activité des racines, Jean-Luc pourrait certainement le confirmer, elle est constante, jour et nuit. Il n'y a pas de période propice ou non. Et ce travail intérieur qui se fait dans l'arbre, je peux peut-être le rapporter à moi. Il me rappelle la promesse de Jésus, à savoir que le Saint-Esprit serait en nous une source de vie, une source qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Ma responsabilité consiste alors à permettre à l'Esprit de Dieu, ce courant de vie, de s'écouler en moi. Et le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens nous donne quelques indications pratiques. Pensez aux choses qui sont en haut, Entretenez-vous par des hymnes, faites mourir votre vieille nature, revêtez le Christ, que la parole de Dieu habite richement en vous, etc. Voilà un certain nombre d'indications qui peuvent nous aider à laisser ce courant de vie nous pénétrer finalement jour et nuit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et puis il y a une dernière expression qui était là, qui m'a surpris, et je dois dire un peu choqué. L'homme, tout ce qu'il fait réussit. La réussite, le succès, on sait que ce sont des maîtres mots de notre société. Déjà, j'enfonce une porte ouverte en parlant de tous ces succès qu'on recherche dans la vie, succès en argent, succès en amour, succès, etc., etc. Mais voilà que notre vie en tant que telle, elle est basée sur l'injustice, car nous avons des atouts différents les uns les autres. Là, on a beaucoup à faire valoir, la fortune peut-être, l'intelligence, la beauté, le savoir-faire, le talent artistique au-dessus de tous les talents. Il y en a beaucoup. Puis l'autre, il a peut-être si peu. Et dans ma propre vie, je n'ai pas constaté que tout ce que j'ai fait est réussi. Je ne peux pas le dire. Parfois, oui, le résultat m'a satisfait, j'ai été reconnaissant. Puis d'autres fois, malgré tout mon bon vouloir, j'ai été à côté de la plaque. Pourtant, j'avais fait de mon mieux. Et c'est une expérience douloureuse à accepter. On se donne de la peine, et puis voilà, ce n'est pas le succès qu'on avait espéré. Et j'ai essayé de rapporter cette parole à Jésus, l'homme Jésus de Nazareth. Et je me suis demandé si on pouvait vraiment dire que lui avait tout réussi. Vous direz, bien sûr, moi je pense que non. Il nous a dit, il va chez les siens, et les siens n'ont pas accepté. Est-ce que c'est une réussite? Vous allez dans votre famille, on vous rejette. Et puis à son arrestation, puis il y en a d'autres, mais à son arrestation, tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Donc il est resté seul, malgré ce qu'il avait fait, malgré ce qu'il avait été, etc. Est-ce que c'est une réussite apparente? Moi, je ne tiens pas ça pour une réussite. Apparente, je parle de Jésus, l'homme de Nazareth. Et je pense que la réponse à ma question, je trouve la réponse dans le dernier verset du psaume, de ce psaume. L'Éternel connaît la voie des justes. Et quand Dieu connaît quelque chose, ce n'est pas simplement superficiel, c'est le pénètre profondément. Pour Jésus, la vie, la réussite de sa vie, elle est attestée par quoi? Par la résurrection. La résurrection a manifesté que Dieu avait totalement accepté ce qu'il avait fait, ce qu'il avait été. Quant à moi, Dieu seul connaît mon chemin. Lui seul me connaît mieux que moi-même. Lui seul pénètre ma vie et lui donne un sens. Mes luttes et mes non-succès sont connus de Dieu. Et finalement, c'est lui et c'est à lui de gérer ce capital pour moi. Et peut-être que ce que je considère comme un échec est un plus devant Dieu. Mais ça, je m'en vais de lui laisser. Je ne parle pas, bien sûr, du péché ou quelque chose qui m'a enfoncé par terre, comme on lisait tout à l'heure au début. Mais dans ce que je fais pour Dieu, je pense faire pour Dieu, puis voilà, quelque chose n'a peut-être pas joué. Mais Dieu le connaît, et c'est ça qui est l'essentiel. Ainsi, enracinant Jésus-Christ, vivant de sa sève, de sa vie, je peux être assuré d'un arbre verdoyant qui portera son fruit, comme il est dit, au temps voulu. Ce n'est pas à moi de décider quand, c'est lui qui décidera. Puis ce n'est pas à moi de décider si mes feuilles sont belles et puis si mes fruits sont beaux. C'est le Seigneur qui le sait et qui le verra. Mais ce temps voulu, le fruit, un fruit parfaitement réussi, parce qu'il aurait été le résultat du travail du Saint-Esprit en moi. Je ne veux pas m'allonger davantage sur ce qui est dit des méchants, si ce n'est de relever cette réflexion désabusée qui sonne comme une mise en garde. La voix des pécheurs mène à la perdition. Et ce n'est pas ce que nous voulons. J'en viens à la conclusion. En mentionnant tout à l'heure ces différentes traductions du mot « heureux »,« bienheureux », il y en a une dont je n'ai pas parlé. Celle qu'André Chouraki utilise dans sa traduction de la Bible. Au lieu de « heureux », il écrit « en marche ». Parce que en hébreu, le même mot peut avoir cette variante-là. Des privilèges entraînent une responsabilité. Alors, en marche mes amis, frères et sœurs, en marche avec le Seigneur, vivons de la confiance de la grâce de Dieu, de sa parole et de ses promesses. Et là où nous pouvons le faire, partageons l'heureuse nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Amen.